Bonjour à tous et bienvenue sur le 125e Comics Weekly. Au sommaire de ce soir, comme d'habitude, le Marvel Now avec la sortie de deux titres de Denis Opless. Alors réussira-t-il un coup double ou fera-t-il un gros plouf? On en reparle tout à l'heure. On parlera aussi bien sûr de la suite de Fantastic Four numéro 2. Du côté de chez DC, le crossover Death of the Family avec Batman et Batman et Robin occupera une partie de notre temps, ainsi que ce qui se passe chez Green Lantern. Enfin, nous terminerons par de l'indé avec la sortie de Clone numéro 2, To Hell You Ride numéro 1 ou encore le Walking Dead. Je suis Steve et vous écoutez le 125e Comics Weekly. Nous sommes le 13 décembre et avec moi pour parler des sorties de la semaine, Mr. René Bunny.
Wouh ! Bravo Mr. René Bunny ! Wouh !
Sam.
Bonjour.
Et Kinghead.
Oui, bonjour à toutes et tous.
Oh, c'est original, dis donc.
Bah, t'as vu ça?
Alors, on va commencer avec le Marvel Now. On sent la motivation ultime puisque nous allons parler de Avengers Arena numéro 1.
Ah oui, là, c'est des gros titres hein, cette semaine.
Ah, c'est du gros titre. Hein.
C'est du lourd.
Tâche.
Oui, c'est du lourd, là, oui. Qui tâche beaucoup.
Et pas forcément dans le sens qu'on voudrait bien l'avoir.
Malheureusement.
C'est écrit par Denis Opless, dessiné par Kev Walker. Alors, côté dessin, c'est plutôt pas mal, Kev Walker.
Bah, c'est du bon que je vois.
Très sympa.
Ça assure, ouais.
Franchement, très sympa. Moi, je connaissais pas trop et...
Alors, Ben Thunderbolt, hein.
Ouais, c'est très sympa.
J'ai jamais été tellement fan de ce dessinateur, donc sans plus. Voilà.
Bouh, Bunny, bouh.
Bouh.
Par contre, c'est du
méchant.
C'est du côté scénario où les choses pêchent un peu plus. Bon, de toute façon, on le savait, c'est Battle Royale version Avengers Academy.
Ou en tout version cas Hunger Games, peu... version Marvel.
Ouais, voilà, avec des personnages en tout cas adolescents ou tout juste adultes.
Voilà, qui sont pas très connus, donc qu'on peut tuer.
Ce que j'aime bien, c'est que. Dès le début, il nous place les deux Asiates. C'est bien.
j'avais pas pensé à ça.
Et oui, bah oui, en plus, oui.
En même temps, Denis Opless ne s'en cache pas, puisqu'il fait carrément référence au bouquin, aux séries télé, aux compagnies. Pour dire
ah, mais c'est plus qu'une référence. En fait, le problème, c'est que si c'était juste une référence, on se dirait, ah bah oui, tiens, c'est bien fait, c'est une bonne référence. Mais là, c'est carrément du pompage. C'est la transposition de Battle Royale dans l'univers Marvel. Et en plus, on se doute bien qu'ils peuvent pas faire aussi violent et aussi bon, psychologiquement parlant.
De toute façon, il suffit de regarder la cover et on voit bien que c'est Battle Royale. Hein.
Ouais.
C'est
oui.
Complètement reproduit à l'identique.
Ouais. Ça, c'est un gros clin d'œil. C'est carrément le même logo et tout. Donc.
L'épisode commence sur un flash-forward de ce qui se passe au 29e jour. Donc on sait qu'ils seront au moins fermés là-dedans pendant 29 jours.
Ils ont 30 jours. Hein. Ils ont 30 jours devant eux. Puisque au bout de 30 jours, il doit rester qu'un.
C'est une baston entre Azmat et X-23. Ensuite, on revient dans le présent, enfin en tout cas au jour 1, et on voit une scène qui a été osée par Denis Opless et qui n'avait été que suggérée par Christos Gage lors de Avengers Academy. Azmat et Metal l'ont fait.
Oui,
alors, lui,
ils ont baisé comme des chats.
Il a pas de souci, lui, il y va franco, quoi. Mais du coup, on apprend quelques pages après qu'elle a en fait 18 ans, donc c'est légal.
Ah, cool.
Oui, non, mais j'ai remarqué ça justement. Je me suis dit, ah ouais,
oui,
il
oui.
va quand même franco parce que c'est vrai qu'avant c'était toujours un petit peu difficile le sujet des adolescents.
Donc c'est bon, il y avait assez de poils.
Et donc là, du coup, on apprend qu'elle a 18 ans, donc elle est quand même majeure. Donc voilà, ça pose moins de problèmes. Bon, bref, on le savait, ils sont enfermés tous par Arcade, qui les chope comme ça. Il est super balèze, il est devenu très fort, Arcade.
Il a des pouvoirs de dieu d'ailleurs. Donc,
Et après, il leur dit, battez-vous, sinon vous mourrez.
Voilà.
Et
merci, c'est sympa.
On va avoir une mort.
Oui.
Une mort d'un personnage connu, on va pas révéler qui c'est, bien sûr.
Qui est bien amené, je trouve.
Ouais. Ouais, c'est bien amené, mais...
Non, moi j'y crois pas du tout. Je vois pas pourquoi, justement, ils peuvent pas se débrouiller face à Arcade, qui est quand même...
Bah, manifestement, merde. Parce qu'il a programmé tout le Murder World pour être quasi invulnérable sur le site.
Oui, mais enfin...
Alors, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une illusion?
Le personnage qui se sacrifie un peu vite. Hein. Ils essayent rien. Voilà, ils se disent pas...
Mais si, ils se battent pendant plusieurs pages et ils arrivent à rien.
C'est plutôt bien fait, moi, je trouve. Enfin,
il les défonce quand même. Il les défonce sacrément, quoi.
Bah oui.
Avec une patate, il envoie Azmat voler à un quart de mile.
Voilà.
Ce qui représente, en gros, 300-400 mètres. C'est pas mal.
On a une quinzaine de pouvoirs différents et le mec a pas une égratignure.
Ouais,
c'est bien.
Enfin, bon. En tout cas, ce personnage-là qui se sacrifie, c'était en plus le plus intéressant pour moi, enfin l'un des plus intéressants.
Bah
il y a trois personnages qui m'intéressent, c'est tout. Les autres,
bah
je
bon,
les
il y en a
connais
qu'un,
même
c'est
pas,
X-23.
qui meurt ou qui meurt pas, je m'en fous. Donc, j'irai pas lire la suite, puisque ça fait déjà 1 sur 3 qui est parti. Donc, et puis, les deux autres qui m'intéressent, on les voit au début. On sait qu'ils sont là au 29e jour. Donc, j'ai rien à lire, en
Ah!
fait.
Bah oui.
Bah oui, voilà.
Bah non,
Donc,
il faut revenir à l'épisode où on en est à l'épisode au jour 29. Voilà.
Ouais, mais je trouve que vous exagérez un peu. Enfin, moi,
Non, c'est
justement,
nul.
je les connais pas trop, ces personnages, à part bah,
Bah
les
j'ai.
deux, trois là dont tu parles. Mais ça n'empêche pas que ça peut être intéressant de voir
Bah,
quels
il
sont
y a
leurs
quand même des
pouvoirs,
personnages.
qu'est-ce qui va se passer.
Il y a quand même des personnages connus. On a Darkhawk, par exemple, qui fait partie du casting que l'on connaît, qui
Bah,
n'est pas forcément un personnage d'Avengers Academy.
y a des membres des
Non.
Runaways, donc il y a. Puis voilà, après, il y a surtout pas mal de mystères, puisqu'on ne sait pas comment Arcade a pu devenir aussi fort, comment il a pu capturer les enfants. Donc, ça, c'est des choses qui seront intéressantes à découvrir au fur et à mesure. Donc
Ouais, non, mais
franchement,
le.
moi, je trouve ça pas mal,
Honnêtement,
hein. Franchement, ce numéro, j'ai trouvé bon.
ce serait une bonne idée sur un arc, voilà,
Mais
sur
oui,
un
ou sur
arc en
une mini,
6.
quoi.
On dirait, ah oui, tu te souviens de cet arc-là où il faisait un truc à la Battle Royale et tu dirais, bah oui, effectivement, c'était plutôt sympa comme idée. Mais faire toute une série là-dessus,
Mais
c'est
c'est exactement
vraiment,
mon problème, ouais.
c'est
Ouais,
vraiment
moi aussi.
problématique.
Bah, c'est ce que je disais aussi, ce que je me dis aussi, c'est un pitch de mini.
Bah oui!
Ouais, mais
Oui!
enfin une mini, je veux dire, si on a une mort par épisode, ça ferait quand même déjà plus de 16 épisodes, pour avoir un peu en plus de
Bah,
background et
tu peux
tout,
faire une
ça peut être un
maxi
petit peu long.
façon Children's Crusade en
Voilà,
9 ou même
ouais.
12 épisodes. Mais là, le problème, c'est qu'ils nous promettent un ongoing où, en plus, on devrait avoir que très très peu de vues sur l'extérieur de ce Murder World, puisque ce qui il va se concentrer sur les relations entre les personnages qui vont se développer un peu. Alors, vu comment c'est parti, à mon avis, épisode 2 et 3, les gens parlent, hein, il va pas se passer grand-chose. Non, je sais pas. Moi, pour moi, c'est le problème, c'est que l'idée de base n'est pas mauvaise. Mais en revanche, combien de temps ça peut durer sans s'essouffler?
Bah,
Là, je suis pas
trentaine de
certain.
numéros, une trentaine de numéros, pas sans s'essouffler, mais une trentaine de numéros, à mon avis, ça va être la durée de cet ongoing, parce que effectivement, ça va être un jour un épisode à peu près.
Ah, tu penses que ça va être comme ça?
Ouais.
Ah bah ça, t'es optimiste, hein, parce que moi je pense que ça sera plus quelques heures par épisode et ça avancera au ralenti.
Non, je pense que ça va être un jour un épisode et qu'on arrivera effectivement au 29. Si ça marche, enfin si ça marche, si ça peut durer 30 épisodes. Après, s'ils voient que vraiment c'est un four ce titre, ils vont tout régler en 12 et au bout de 12, on dira bon bah en fait c'était une mini.
Non mais
Voilà.
il y a un petit truc quand même qu'on voit, enfin quand on regarde la première page, la couverture, on voit c'est Avengers Arena, mais ils marquent en gros AA. Avant c'était Avengers Academy. Bon, ils peuvent toujours appeler la série en gardant la même numérotation Avengers avec autre chose qui commence par un A et puis faire d'autres choses avec ce
Association.
personnage-là. Voilà. Donc à mon avis c'est peut-être juste ça. Ça va peut-être être que sur une vingtaine de numéros cette histoire.
Attends, et 20 numéros, c'est énorme, hein,
Ouais,
Kinged. Je sais pas si
mais
tu te rends compte.
Deux ans,
dans le marché
dans
actuel,
deux
bah
ans,
non.
ça veut dire que
Je sais que.
pendant que
Non,
l'univers Marvel
20
continue.
numéros chez 20 numéros chez Marvel, c'est un an, puisqu'il en sort 18
Et
par an.
moi,
Ouais.
j'ai lu 15 numéros du manga Battle Royale et j'ai adoré du début à la fin. Et ça
Mais moi
m'a, il y
aussi.
avait, et
Mais moi aussi.
ça peut se faire, ça
Oui,
peut être bien.
mais dans Battle Royale, le problème, ce sont des personnages qui étaient disponibles que pour ça, qui n'existaient pas par ailleurs. Il n'y avait pas tout un monde à côté où il se passait des choses. Là,
Bah là, ils sont.
franchement. Oui.
Le fait que ce soit en vase clos, moi, franchement, moi, ça m'intéresse.
Oui, mais le
Non,
problème,
mais.
c'est qu'on est dans un univers partagé. Comment expliquer que. Bon,
Ouais.
apparemment,
Mais
il
oui, mais
répond à
ça
cette
va
question
faire.
qu'ils vont être recherchés, mais
Puis
comment expliquer
comment.
que les Avengers, enfin, que l'Académie des Avengers disparaisse pendant 30 jours, quoi?
Mais
Et puis
justement, c'est
comment.
ça qui est intéressant, c'est d'avoir les explications de l'auteur là-dessus, parce que
Mais
c'est sûr,
comment tu
après,
peux.
s'il se foire, il se foire, mais
Comment tu
moi,
peux
ça m'intrigue.
expliquer. Comment tu peux expliquer un truc à la Battle Royale avec comment tu peux espérer un truc à la Battle Royale avec l'univers Marvel? Enfin aussi quoi, faut être réaliste. Ça n'aura jamais la puissance, la psychologie, la profondeur d'un Battle Royale. C'est pas possible.
Et puis Battle
Peut-être
Royale,
pas,
c'était nouveau aussi. Là, ça l'a plus.
peut-être
Oui,
pas,
en
mais je trouve que
plus.
pour un premier numéro, ils tentent des choses, ils font mourir des personnages, et mine de rien,
Un
en plus
personnage, ouais.
c'est bien dessiné. Et moi, le seul truc que je crains, c'est que on nous dise à la fin, ils étaient dans un logiciel, ils sont pas vraiment morts,
Ouais, c'est exactement ce que je
ils
me
sont
dis
tous
aussi.
raccordés à des machines. Ça m'énerverait. Mais si c'est quelque
Bah en
chose
même
qui se
temps,
passe en
ça
vrai,
expliquerait les pouvoirs d'arcade,
voilà,
le
ça
niveau des
expliquerait les
pouvoirs
pouvoirs
d'arcade.
d'arcade, mais ça me décevrait.
En
S'ils
même
arrivent à
temps,
trouver une explication plus intéressante, ça me va.
En même temps, c'est des personnages. Justement, c'est ça aussi qui m'énerve dans ce type de série, c'est qu'on t'a mis tous les personnages sacrifiables. C'est-à-dire que les auteurs ont fait une liste, ils ont dit, écoute, ça c'est tous les personnages dont on va pas se servir, on sait pas quoi en faire. C'est des déchets des Runaways, de la Avengers Academy, j'allais dire autre chose. Et voilà, donc utilise-les si tu veux. C'est de la chair à canon, ils sont sacrifiables. Le mec se dit, ok, bon bah allons-y. Et donc là, il a sacrifié l'un des, on va dire l'un des plus connus, enfin moi en tout cas,
l'un des personnages les plus intéressants, ce qui est dommage. Ouais.
Mais oui, mais ce qui montre qu'il a des intentions quand même assez.
Ouais, mais enfin bon, claire. La mort dans l'univers Marvel, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas définitive,
hein,
loin de là.
Tout à fait.
Ouais, sauf pour les jeunes, c'est ça qui m'énerve à chaque fois. Alors, souviens-toi de la série New X-Men, qui était d'ailleurs pas mal par Greg Kyle et Chris Yost. Par contre là ils crevaient tous à tire l'arigot avec Bastion qui revenait. Non, c'était pas Bastion, c'était Stryker avec comment il s'appelle? Nemrod, etc. Il nous en a tué au moins une vingtaine. Mais ce qui m'énervait, c'était que bon, c'était bon, mais par contre tu te dis bah ouais, forcément les jeunes personnages, c'est toujours ceux qu'on sacrifie le plus facilement. Parce que finalement, ils savent pas quoi en faire. Ça deviendra jamais des Avengers. C'est ça aussi qui m'énervait, quoi, avec Avengers Academy. C'est tu savais que ça s'appelle Avengers Academy, mais qu'ils ne deviendront jamais Vengeurs.
Ah,
c'est
pourtant,
quand même...
on a eu des cas hein, à travers l'histoire de personnages qui ont commencé dans des équipes de jeunes et qui sont devenus des Avengers. Regarde les New Warriors, on a Justice et Firestar qui
Ouais,
sont devenus
mais
Avengers pendant longtemps.
Ça date vraiment d'une autre époque aussi.
Ouais, mais
C'est-à-dire
tu vois,
que...
s'il en reste que 5 à la fin et que ces 5-là, du coup, on se sera attaché à eux pendant une trentaine de numéros.
Mais
après,
il n'en restera qu'un! Il n'en restera
après,
qu'un, et c'est Denis Brognard qui
ils
l'a
pourront
dit.
Devenir des Avengers et vraiment on s'attachera à ces personnages.
Mais
franchement, la grande question qui guette, c'est qui ira lire jusqu'à 30 épisodes?
Ah, tu vas aller, pas si on aura 30, mais on verra.
Donne-nous
mais je veux
ton
dire,
flambeau.
En partant de ton principe, s'il en reste même 5 à la fin, sur une trentaine d'épisodes, qui ira jusqu'au bout de cette série? Moi, honnêtement,
moi, en tout cas,
je sais déjà même
que
pas
je
si je vais retourner
ma
voir le 2.
Moi, c'est une série que je mets dans la liste. Bon, de toute façon, on va donner nos notes, mais.
Ouais, on va donner nos notes. Vas-y, commence, King.
Moi, pour moi, c'est un bail.
D'accord. Benny.
Non, un check it, voilà, pour moi.
Check it, ok. Sam?
Check it.
Pareil pour moi, check it. Ça aurait été un bail si ça avait été une mini. Mais bon. Sur un régulier, hein, comme on l'a dit. On continue justement avec du Denis Soples. C'est Sam qui va nous en parler. Le retour d'une autre série tant attendue.
Oui, Cable et X-Force, donc toujours écrit par Denis Soples et dessiné cette fois-ci par Salvador Larroca. Une série pas difficile, assez difficile à résumer puisque pour le moment, on n'a pas vraiment de pitch. On a dans les premières pages les membres d'une pseudo-équipe menée par Cable qui sont au milieu d'un massacre. Les Uncanny Avengers qui débarquent, ils leur disent c'est quoi ce bordel, et ensuite des flashbacks pour voir comment Cable recrute les différents membres de cette équipe. Sauf un, qu'on n'a toujours pas vu. Voilà. C'est pas exceptionnel, hein, ce premier numéro, on va le dire comme ça. Le dessin est pas mal du tout. On sent que Salvador Larroca est content de ne plus faire Iron Man.
Ouais, enfin, il place chose. Quand même des armures un petit peu partout, hein, donc ça lui manque.
Oui,
hein.
Ça c'est son petit truc favori.
Enfin,
on a quelques
style,
apparitions de Hop. Mais
il a un style moins photoréaliste, ça y est, il revient
voilà,
à son
oui.
ancien style un petit peu qu'il avait sur Extreme X-Men.
En fait, l'intrigue la plus intéressante, c'est même pas le début pour moi, c'est la petite intrigue qui se dessine autour de Cable.
Oui,
ouais. Bah, c'est
un
le
petit
seul
mystère,
truc, c'est la seule matière en fait.
Voilà, oui. Parce que les autres personnages, je comprends toujours pas à la fin du premier épisode. Moi, le principal reproche, c'est que je comprends toujours pas le pitch de la série.
Ça m'a pas vraiment passionné non plus. Hein,
le problème, c'est que comme beaucoup de séries Marvel Now ont été vachement teasées avec les sollicitations, avec les conférences de presse qu'ils ont fait, les auteurs qui se sont exprimés au sujet de chaque série, ça permet de comprendre la série. Des fois, on en sait tellement que même à la lecture du premier voire du deuxième épisode, on en sait encore plus que ce qu'on a lu. C'est le cas dans Fantastic Four dont on parlera juste après, mais là, le problème, c'est que sans la sollicitation, si je l'avais lu sans la sollicitation, je n'aurais aucune idée de quoi ça parle.
Oui,
donc, je suis très content de l'avoir lu là.
Ouais, mais enfin, je veux dire, faut penser aux gens qui disent pas les sollicitations. On peut très bien apprécier la série sans lire les sollicitations.
Ben, non, mais tu crois que c'est appréciable ça sans lire les sollicitations?
Moi, ça m'a pas emballé, mais par contre, je trouve ça quand même assez clair. Enfin,
on va être clair. Qui ça a emballé ici? On est quatre. Je crois qu'il y a pas une personne qui a été emballée par cette série.
Toi, j'ai adoré, non, je plaisante.
Il y a des petites choses sympas. Enfin, le personnage du Docteur Nemesis, moi, je l'ai trouvé assez rigolo dedans, mais c'est vraiment des toutes petites choses, quoi.
Ouais, mais on va être aussi encore une fois très clair avec le nombre de séries que Marvel nous pond et le nombre d'épisodes qui sortent chaque mois, puisque chaque série sort deux fois par mois. Un truc sympa, c'est pas assez. Il faut que ce soit bon.
Ah oui, non,
au
ça,
minimum.
Je suis tout à fait d'accord. Après, moi, c'est la construction, je la trouve pas gênante au niveau du scénario. C'est plus ce qui se passe dedans qui me gêne.
Ce qui se passe pas plutôt.
Ça se passe pas grand chose, voilà, c'est ça.
Mais voilà. Le problème, c'est que moi, j'ai la, enfin, voilà, c'est écrit tous les Avengers Arena ainsi que Cable et X-Force sont écrits toutes les deux par le même scénariste, Denis Oplès, et ça se ressent. Il y a quand même un aspect un peu vide sur les deux. Et si on n'avait pas lu les sollicitations,
j'ai pas ressenti ça sur Avengers Arena, personnellement. Que j'ai trouvé mieux écrit.
Mais enfin c'est pas génial non plus quoi. Le pour moi, je vais pas dire qu'il s'est planté sur les deux, il s'est surtout planté sur Cable et X-Force, mais
je dirais pas forcément mieux écrit, mais je dirais le pitch est plus attrayant sur Avengers Arena que sur celui-là. Par contre, bon, dans l'ensemble, c'est sans espoir.
C'est la blague que j'aurais faite pour finir, mais c'est pas grave.
C'est surtout qu'en fait, ce premier numéro, on a vraiment l'impression que c'est plus une histoire de Summers qu'une histoire de X-Force, quoi. Puisqu'il nous parle des atermoiements de câbles, on voit Hope, on voit.
C'est con que ça sorte à Noël alors.
Plus gonflante que jamais, hein. Faut quand même le dire. Elle est très très gonflante, hein, dans cette
pièce. Ouais, très.
Non, mais c'est Hope, hein.
En général, quelquefois, ils arrivent à bien écrire. Là, non.
C'est pas intéressant, quoi.
Et pour finir avec les Summers, on a quand même Avok au départ.
Et voilà, hein. Et Avok, donc c'est ça. C'est,
qui
c'est
est aussi très chiant
famille,
dans cet épisode.
Et puis là, il est super bodybuildé, hein, le mec.
Moi, j'ai adoré la représentation de Salvador Larroca sur cette page où l'on voit Avok et Cap, où justement il dit à Cap de fermer sa gueule. Ils ont tous les deux la même gueule, le même type de masque, et tous les deux les vieux sourcils blonds qui sortent. J'ai l'impression qu'il a fait deux fois le même personnage en fait, juste en changeant la gueule.
Au moins, c'est pas chier.
C'est vrai que c'est amusant.
Ça m'a fait un peu rire, ça.
Un autre truc un petit peu amusant, c'est on s'était pas mal moqué de ce fameux bras bionique et il joue un peu là-dessus.
Oh, c'est ridicule.
Il joue un peu là-dessus dans le sens où Cable fait c'est quoi cette merde que tu veux me mettre au bras, quoi. Mais bon.
Mais après, j'ai des gadgets explosifs. Ah bah c'est pas si mal maintenant.
J'ai l'impression que Denis Suples se moque un petit peu quand même de ce que représentait X-Force dans les années 90 avec leurs gros bras, leurs gros muscles.
Et leurs gros flingues.
Leurs gros flingues. Je pense que c'est fait un peu exprès aussi. Mais bon, ouais. Ça n'empêche que bon bah c'est pas très attrayant et vous avez loupé ma super blague tout à l'heure. Je suis dégoûté.
Mais si on a compris.
Mais oui, on a compris. C'est juste qu'elle était pas drôle.
Voilà. Ah non. C'était sur c'était une histoire essentiellement sur Summer. Alors moi je dis c'est con que ça sorte à Noël.
Ah oui. Oh, d'accord.
Ah oui, là, oui, c'était pas
exactement.
Oui, c'est vrai, c'était pas grave du tout.
Tu vois, un truc bête, c'est que donc quand on a cette scène au départ où justement la fameuse scène où ils sont accusés d'être des tueurs et des terroristes et qu'ils vont voir les Uncanny Avengers au cul, la scène je trouve mal construite. Je veux dire, pourquoi Cable ne s'explique pas? Il est quand même face à son oncle.
Ah mais ça toujours.
À la base.
Toujours.
Pourquoi Cable ne s'explique pas en disant mais écoute c'est pas nous. Je veux dire, il a quelqu'un qui clairement lui demande une explication et penche de son côté, il s'en sert pas. Pour moi ça tient pas debout, ça peut pas tenir debout.
Ouais,
c'est ça.
Enfin, je sais pas, mais si on regarde bien la première page, enfin la double page, on voit très bien que c'est probablement pas eux qui les ont tués quand on voit certaines choses sur les corps en question des personnages. Mais bon, après voilà,
le problème principal, c'est quand même qu'on s'en fout.
Mais ouais, mais
oui, bah, voilà, quand tu arrives à la fin de l'épisode, tu t'en tapes.
Il manque un ressort dramatique pour vraiment
voilà, oui.
Après cette histoire et
mais il manque ce qui marchait dans les années 80 et 90, faire des premiers épisodes des épisodes doubles, bordel de merde. Mmh. Asseyez votre histoire avant de l'en faire un arc quoi. Commencez par faire un premier épisode attrayant au lieu de vous dire lisez le premier arc en entier.
Un épisode double
coûte quand même $15.
Un épisode double aurait pu être aussi intéressant que celui-là. On aurait été doublement.
C'est sûr que si c'est faire un épisode double pour arriver à la même situation à la fin, non.
Ouais. Ça aurait été créneux.
Je pense que
$20 même l'arc maintenant.
Faites juste de bonnes histoires. Essayez de nous intéresser un petit peu. Vendez un petit peu le truc. Parce que là, limite, dans le point one, c'était plus vendeur le pitch de cette série que ce qu'on voit dans le premier épisode.
Moi
ça m'avait plus intéressé.
Je suis déçu. Enfin, en même temps, j'attendais rien de cette merde, hein, donc.
Ouais, mais écoute, franchement, honnêtement, je vais peut-être être tout seul, mais j'ai préféré Thunderbolt. Je n'en démords pas hein, à ça, par exemple.
Ah non, quand même pas.
Ah si, moi carrément.
Bah pour moi c'est sur le même niveau.
Pour moi c'est un check-it ça, alors que Thunderbolt c'était vraiment un bon gros pass tout pourri.
En tout cas le premier numéro. Je préfère nettement l'équipe et leur manière d'être justement. C'est vraiment une équipe de gros bourrins, c'est du n'importe quoi, c'est marrant. Alors que là.
Oui, mais le problème
là,
de Thunderbolt, c'est qu'ils n'ont rien fait encore. C'est pour ça que, comme je disais la semaine dernière, attendez le 2 avant de démarrer la série. Ils n'ont rien fait pour le moment.
Une fois
qu'ils seront ensemble. Bah oui, non, mais là, c'est pareil. C'est pour ça que je dis que pour moi, je les mets sur le même niveau. On a le schéma typique de la construction d'équipe dont tout le monde se fout. Et qui a été vu 150 000 fois.
Ils ont rien fait, mais il y a un peu plus de background quand même que dans, dans Thunderbolt. Dans Thunderbolt, ouais,
l'équipe est carrément meilleure dans Thunderbolt que là. Là, franchement,
mais ça, c'est après, c'est juste une histoire de goût.
Rappelez-vous une construction d'équipe qui a eu lieu.
C'est une histoire d'écriture aussi.
Rappelez-vous une construction d'équipe qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, celle de Earth 2. On est au 7ème épisode, l'équipe n'est pas formée, mais c'est intéressant.
Ouais.
Oui, tout à fait.
Parce qu'on a des personnages qu'on nous a présentés comme attachants dès le départ, un pitch qui malgré tout avance bien, hein, avec des bonnes idées ici ou là. Donc,
des personnages
du coup,
que l'on connaît mais que l'on connaît pas. Mm-hmm. Bah, voilà, enfin c'est.
Et en même temps, le premier épisode démarrait beaucoup mieux. Avec ça, on rentrait quand même beaucoup plus dans le bourrin, on comprenait beaucoup plus vite. Hein.
Et il y a des avantages lui aussi, hein, le premier épisode. Donc c'est faisable de faire des premiers épisodes où on sait qu'on va avoir une équipe et qui se tient. Je sais pas, là, je pense que Marvel a trop voulu sortir de choses et a trop nous en sortir. Honnêtement, moi, les numéros 1, je commence à en avoir ras-le-bol, quoi. Commencer une nouvelle histoire à chaque fois avec cet aspect, lisez l'arc pour voir si ça vous plaît. Bah non, enfin, franchement, à 12 ou 15 dollars la lecture d'un arc.
Bah
merde,
non, maintenant c'est 20, hein. Parce que c'est à 4 dollars. Et c'est les, en général, les arcs sont sur 5.
Ouais, bah ouais, non, mais merde, quoi. Franchement,
t'arrives à 20 dollars
facile,
hein,
le Marvel là, on me fait pas une grande impression, quoi. Il y a 2-3 séries qui sortent vraiment du lot. Mm-hmm. Le reste, c'est tout juste passable, voire carrément à chier. Franchement, je suis un petit peu déçu. J'en attendais beaucoup du Marvel Now. C'est peut-être de ma faute.
Moi, je suis.
Mais plus les semaines
passent,
je sais
pas, non.
Je suis
moins négatif
intéressé
que toi, quand même.
Personnellement, les séries dont j'attendais quelque chose, effectivement, ont fait quelque chose. C'est-à-dire les Avengers, essentiellement. Et All New X-Men qui a été la bonne surprise. Mais à part ça, le reste, je m'attendais à un truc moyen, fort pourri, et c'est ce qu'on a eu.
On a quoi qui ressort du lot? Avengers, All New X-Men, Thor, qui est une surprise. Ouais. Bon, on s'attendait à ce que ce soit sympa, mais c'est quand même au-delà de nos espérances.
Uncanny Avengers.
Oui, les Avengers.
Quand ça sort?
Les deux, quoi. Et puis All New X-Men. Mais enfin, c'est les gros titres que l'on attendait tous au tournant, quoi. On savait très bien que c'était les gros titres sur lesquels pariait Marvel.
Ouais,
sorti de là, est-ce que vous avez vraiment des petites séries qui vous ont attiré à mort en vous disant c'est la meilleure chose que j'ai lue?
Non, mais par contre, c'est des séries qui sont faciles à prendre en cours. Enfin, je sais que moi, je lisais pas énormément de Marvel, et maintenant, je me suis mis à Deadpool et à Fantastic Four avec plaisir, par exemple.
Ouais, et pour les vieux lecteurs?
Comme d'habitude. Je ne mets pas à votre place, mais moi, je sais que je suis content d'avoir ces titres que j'ai rajoutés dans mon.
Franchement, t'aurais dû commencer avant certaines séries, parce qu'il y a eu vraiment eu des bons trucs que t'as ratés, et là,
ça veut pas dire du tout que j'ai pas envie de relire des choses d'avant. C'est juste, j'aime bien ce que je lis pour l'instant.
D'ailleurs, si on continue sur le Marvel Now,
justement, on va donner les notes sur Cable et X-Force. Pour moi, c'est un pass, honnêtement.
Moi, c'est un petit check-it moins, quoi.
Check-it moins aussi.
Moi, parce que c'est le premier, c'est un check-it, mais dès le numéro 2, à mon avis, ce sera un pass, et puis pour l'autre aussi.
Allez, on termine et on va faire plus vite là sur celui-ci. Chez Marvel, c'est le Fantastic Four numéro 2, King Ed.
Oui, donc toujours l'équipe de Matt Fraction au scénario et Mark Bagley au dessin. C'est la suite directe du FF numéro 1. Où en fait les quatre fantastiques ont rassemblé un peu leurs remplaçants pour pouvoir partir en voyage dans l'espace avec en famille. Et il se passe pas grand chose dans ce numéro. Ça reste vraiment dans la même veine que le FF numéro 1, avec des petites scénettes où on voit les différents personnages de la future équipe des Fantastic Four.
Interagir avec celui qui va le remplacer.
Voilà,
surtout.
C'est ça. C'est plutôt bien écrit. Il y a des moments assez drôles, des moments assez, enfin peut-être pas drôles, mais en tout cas des moments assez sympathiques.
Moi, il y a des moments qui m'ont fait marrer. Hein.
Ouais, voilà. Enfin, carrément.
La même chose que dans le premier, la rencontre entre She-Hulk et Thing, qui est bourrée de sous-entendus sexuels.
Exactement. Même Medusa, l'apparition devant les enfants, c'était assez drôle.
Ouais, mais c'est, on a déjà lu ça 15 000 fois. Franchement, sur les 4 Fantastiques, on a déjà lu ça 15 000 fois. Je regrette Hickman. Qui écrivait des choses quand même bien plus intéressantes.
Oui, mais bon, il a pas démarré son histoire encore, et c'est bien là le reproche d'ailleurs.
C'est le reproche qu'on peut faire, c'est qu'il a fallu 2 numéros pour vraiment commencer, et ça a toujours pas vraiment commencé. Ce sera dans le numéro 3.
Même 3, puisque FF est quand même en grande partie rattaché à ça. Donc,
Moi je comptais les numéros de Fantastic Four tout court, puisqu'on sait très bien que le FF 2 est la suite de ça. Et que justement les choses vont démarrer, c'est là qu'il y aura quelqu'un qui va passer le portail en disant on peut pas revenir, il s'est passé quelque chose de pas bien.
Ouais, mais le pire c'est qu'on sait tout d'avance, c'est-à-dire on a eu le pitch, là enfin ils vont dans l'espace, Putain, il était temps, quoi. Et vous reprochez à Bendis toujours d'être vachement décompressé. Oui, All New X-Men, ça aurait dû se terminer le numéro 1 à la rencontre entre les originaux et puis Cyclope maintenant, etc. Ben
Ah non,
là,
c'était pas mon cas, moi. Hein. Je
oui, non,
m'en
enfin,
tout de suite. Hein.
oui,
Moi,
bah,
c'était mon
Sam,
cas.
ouais, bah, je pense que là, on est d'accord. C'est aussi pareil, quoi. La
Sam l'a
série
pas lu.
est
Moi, je l'ai pas
prise
lu,
en
son.
cœur.
Je l'ai pas lu.
C'est du Matt Fraction, ça me va pas les lire.
Non, mais attendez. J'ai lu le numéro 1 de Fantastic Four FF. Je n'ai pas aimé. Je vais pas voir le 2.
Moi,
Bon,
j'ai hésité à le
ouais, bah,
prendre.
moi j'avais
Attention,
bien aimé, je vais voir
attention.
le 2 et j'irai voir le 3 de toute façon.
Et
Ça
moi
me
aussi.
plaît, quoi.
Moi aussi,
Mais
ça
attends,
aussi.
mais à
C'est
4
juste que
dollars
ça
le
prend un peu
truc,
trop son temps et que
je
c'est
l'ai
déjà
dit et
tout.
je le redis, quand on fait des séries à un prix pareil, si le premier numéro ne vous accroche pas, n'allez pas voir le
Ah
2.
bah ça
N'allez
c'est
pas
clair. Mais
perdre,
si,
gaspiller
le
votre
truc c'est
argent.
que c'est accrocheur, mais qu'on sait déjà tout. C'est là le problème.
Et
C'est con.
désolé de vous ennuyer avec ça, mais c'est pareil pour. Encore une fois, je remets Thunderbolt sur le tapis, mais là, l'équipe, on la connaît depuis le début. Elle a rien fait. Elle a été formée, elle a rien fait. Là, ça fait quand même trois numéros qu'on voit ces gens.
Ouais, mais il se passe beaucoup
Il
plus
s'est
de
rien
choses que
passé.
dans
Il s'est rien
Thunderbolt.
passé.
Il se passe
Mais
des choses, il y a des petits moments
si,
sympathiques, et puis
bah,
c'est
dans
quand même
Thunderbolt aussi.
relativement bien
Attends,
dessiné.
le
Non, je suis
retour
désolé.
de Moon Boy, là, le truc qui sort de nulle part, là, le petit singe avec son dinosaure, c'était marrant. Il y avait.
Oui, le
Ouais,
singe de Devil
mais
Dinosaur, ouais.
je peux en dire autant. Ah, c'est une question de goût, encore une fois, parce que je peux en dire autant dans Thunderbolt. Moi, j'ai trouvé ça marrant, ce que j'ai lu
Bon,
dans
Thunderbolt,
Thunderbolt. C'était des
c'était
petits
vraiment
moments
bas
bas
du
du front,
front,
quoi.
où t'as des mecs qui se
C'était
garent
bas
pour
du
sortir et
front,
aller tuer le
bas du
Punisher. Excuse-moi,
Non,
c'est pas drôle, quoi.
non,
C'est
non,
pas drôle.
je suis
Ça
désolé, il y
prendrait
a
deux
plein.
pages, d'accord, mais là, ça en prend 15, quoi. Faut pas déconner.
Non, il y
Enfin,
avait tous les autres aussi, toutes les scénettes
ils
avec
sont
les
présentés
autres.
sur une page chacun, donc c'est nul, quoi.
D'ailleurs, petite précision, parce que
Puis c'était
apparemment,
pas
la
beau,
jeune
alors que ça,
femme.
c'est sympa quand même, hein,
Attends,
le
la jeune
dessin.
femme qu'on voit dans Thunderbolt, d'ailleurs, c'était apparemment une création de Peter David. Juste fermeture de parenthèse, mais voilà.
Oui, bah, et alors? Je veux dire,
Ah
c'est pas parce que
non,
c'est une création de
Ah
Peter
non,
David
mais
que c'est un
je
personnage
précise
intéressant.
pour les auditeurs
Ah
simplement
oui.
qui se demandaient qui c'était. C'est tout. Ah oui, non,
Oui, ah oui. Non, mais
mais
oui, c'est
c'est
que
pas du tout un argument
le truc, c'est
pour.
que ce serait un personnage de Peter créé par Peter David, repris par Peter David, ouais. Mais d'ailleurs, grand absent du Marvel Now, à mon grand regret.
Ouais, enfin, il est toujours heureusement sur.
Il est sur X-Factor, mais il est grand absent du
Jusqu'à
Marvel Now.
quand, ouais.
Mais c'est pas plus mal. Ah non, mais
Bah
moi c'est
non,
pas mon grand regret.
si.
Ah non, mais moi je préfère encore qu'il reste éloigné de ces trucs qui sont globalement mauvais quand même.
Oui, mais
Oui, mais
enfin, vous pouvez pas croire que le titre sera jamais relié au Marvel Now, donc
Ouais.
soit ça sera
Ouf.
arrêté, soit ça sera Marvel Now à un moment ou à un
Bah,
autre, hein,
malheureusement, il y
X-Factor.
a plus de chances qu'un jour ce soit arrêté, même si les fans
Bah
à chaque fois
malheureusement,
se
oui,
battent pour que ça
on
dure.
enlèvera la bannière Marvel Now, mais ça restera comme ça, hein, c'est tout. Ça va faire exactement comme Shattered Heroes après le Fear Itself, comme on avait eu le Dark Reign, la bannière était assez vite partie, comme on avait Age of Heroes aussi, la bannière reste 6 mois le temps du premier arc, et puis après c'est terminé, hein.
Oui, bien sûr. Bien sûr, ces histoires de marquer le coup.
Allez, bah pour le Fantastic Four, pour moi, c'est un check-it, quoi. Je peux pas dire un bail, c'est sympa, c'est beau, mais
Moi, pour moi, c'est un bail, j'ai bien souri et j'aime bien les dessins de Bagley, il y a plein de couleurs et j'aime bien les persos. Donc.
Ah
Ah
bah, c'est en
bon.
termes de consistance d'histoire, si vous voulez vraiment d'histoire qui avance, prenez pas celui-ci, prenez le 3, quoi.
Bon, moi j'ai hésité à le prendre. Malheureusement, je l'ai pris et je l'ai survolé. J'ai même pas vraiment lu ça avec attention. Donc pour moi, c'est un pass et je prendrai pas la suite.
Allez, on va maintenant passer à la partie DC et on commence avec le crossover Death of the Family dans Batman numéro 15, Bunny.
Ouais, donc Batman 15 par Scott Snyder et Greg Capullo, le tandem star de cette série. Alors, bon, un
Sans oublier
épi.
Jonathan Glapion à l'ancrage quand même.
Oui.
Ouais, c'est vrai, je nomme jamais l'encreur, mais je devrais. Donc, l'épisode dernier, ça bougeait beaucoup. Il y avait énormément de révélations, énormément de choses. C'était orienté 100% action. Là, cette fois-ci, c'est un peu le contraire. Un épisode beaucoup plus psychologique, on va dire. Bruce est fait est piégé un petit peu par le Joker qui arrive à l'avoir à son propre jeu. Hyper connaissance, il se réveille. Il y a une scène assez marrante que je vais pas révéler d'ailleurs à son réveil. Et puis après, et au fait, il a une discussion avec toute son armée de Batman. Donc il y a les Robin, Batgirl, Red Hood. Et au fait, il raconte une anecdote par rapport au Joker, une anecdote qui remonte à l'un de leurs premiers affrontements, où au fait le Joker avait, au fait Bruce avait retrouvé une carte du
Pas en
Joker dans la
dire trop,
Batcave.
peut-être pas en dire
Non,
trop,
mais
ouais.
enfin de toute façon c'est pas.
Du châtain sur rien, il peut le révéler.
Ouais, mais oui, mais c'est la base un peu de tout
c'est le problème.
La torture psychologique du personnage, quoi.
C'est le problème avec, pour moi, c'est pour cette, sur cet épisode. Hein.
Non, mais voilà, donc il a retrouvé une carte du Joker dans la Batcave. Comment elle s'est retrouvée là, voilà, c'est toute la question. Et puis il y a toute une discussion autour de ça. Un peu longué la discussion, finalement ça remet pas mal, ça redistribue les cartes sans mauvais jeu de mots, ça remet un peu la question sur certaines révélations qu'on a eues dans le dernier épisode, voilà, on est... Et puis, ce qui m'a un peu déçu, c'est ce final, ce cliffhanger, c'est quand même assez déjà vu aussi, on a l'impression...
C'est plat surtout.
Ouais.
Attendu quoi. C'est attendu que ça se termine à cet endroit-là, que ça se termine comme ça. C'est très
attendu. Non, mais c'est pas que c'est attendu. C'est que je trouve que la prétendue situation mise en place par le Joker, que je ne vais pas révéler aux auditeurs pour la fin de l'épisode, pour moi c'est du n'importe quoi. C'est complètement con, voire. Donc
Le perso,
je ne vois pas comment c'est possible.
Le personnage a disparu pendant un an. Il a pu.
Oui, mais je ne vois pas comment c'est possible.
Il a pu.
Étant donné les 4 milliards de sécurité que Batman prend en permanence, je ne vois pas comment c'est simplement possible.
Si, c'est expliqué dans l'épisode comment c'est possible. De par ce qu'il a fait pour gagner cet endroit-là sans être emmerdé.
C'est-à-dire, franchement, le Joker, c'est devenu une espèce de demi-dieu du mal.
Voilà, oui. Et c'est aussi mon problème.
De némésis de Mark Millar, parce que, franchement, il a manipulé durant un an à peu près 163 000 personnes. Enfin,
Tu peux tromper 163 000 personnes une fois, mais pas...
Et pas deux.
Il y a un argument qu'il faut pas oublier et dont il faut vraiment tenir compte, c'est le fait qu'il soit constamment sous l'effet de la douleur et que ça amplifie tout. Ça amplifie sa force puisqu'il y a de l'adrénaline, mais ça amplifie aussi le fait qu'il essaye de faire des plans, etc. Et que donc il est poussé par autre chose. Et on apprend aussi. Mais ça, de toute façon, c'est quelque chose de très sous-entendu depuis le départ dans.
Oui, mais ça, c'est en plus quelque chose que Snyder avait dit déjà. Donc en fait, on n'apprend rien. J'ai l'impression que, un, il ne s'est rien passé. Deux, que Snyder a rempli son intrigue, enfin son épisode, avec du rien. Voilà, avec de la prétendue tension psychologique qui ne repose que sur du vent. Et il finit en plus sur des espèces d'interludes sur la manière dont Batman perçoit le Joker, qui personnellement m'ont fait chier, mais à un point pas possible. Moi, mon sentiment sur cet arc, c'est que, un, j'en ai marre, mais vraiment, j'en ai ras-le-cul, cet arc. On en est à la 3, on en est à la 3e partie, j'en ai déjà ras-le-cul.
Rappelle-toi, tu disais la même chose sur Night of the Owls au départ.
Oui, parce qu'en plus, ça durait sur 11 parties. Ouais. Voilà, parce que là, c'était...
Moi, je rejoins ça.
On a une impression de densité.
C'est vraiment l'apocalypse qui arrive. Hein. Ça fait plusieurs.
Ouais, mais on a bientôt 21. Ouais,
on a une impression de densité parce qu'il y a du texte et un semblant de développement de personnage. Mais la manière dont est décrite le Joker en espèce de Benny l'a dit, en espèce de demi-dieu qui est quasiment invincible, c'est n'importe quoi vraiment. Personnellement, j'y ai pas cru. Voilà, j'y ai pas cru. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'épisode. Toute la discussion entre Batman et les autres, mais je me suis dit, mais pourquoi tu nous fais chier avec ça? On en a rien à battre.
Moi, ça m'a fait penser à une scène qu'il avait déjà fait avant Scott Snyder. C'est la scène de la dent dans Night of the Owl. Comme par hasard, tu vois, il y avait l'histoire de la dent de Robin, le truc déjà planifié depuis bien longtemps. Là, l'histoire de la carte du Joker, ça me fait penser un petit peu à la même chose. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais...
C'est le jeu du Joker de mettre le doute dans la tête de tout le monde et...
ce que je crains personnellement...
De ce côté-là, c'est Snyder, la discussion, le côté un petit peu torture psychologique qu'il impose à Bruce et aux autres Robin est pas mal venu... Enfin, est bien mis en place, quoi. Enfin, je trouve que c'est une bonne idée. Cependant, comme l'a dit très bien Benny tout à l'heure, c'est exactement le mot que j'avais en tête moi aussi à la lecture de cet épisode. C'est longué, en fait. C'est ça le problème. C'est un peu trop long pour ça, quoi. Ça aurait pu tenir en un demi-épisode.
Mais surtout, moi, ce qui me fait peur à la fin de la lecture de cet épisode, c'est que j'ai vraiment l'impression que Snyder n'a en fait pas d'histoire. C'est-à-dire qu'il est parti sur la confrontation Batman-Joker qu'on a déjà eu 1 million de fois. Qu'on a déjà vu, il a rajouté des petits éléments avec ce qu'avait planté, enfin il avait essayé de planter Tony Daniel il y a un an, Mais au final, il n'a pas d'histoire.
Je suis pas du tout d'accord avec toi, Sam. Enfin, je veux dire, le thème de cet arc, c'est justement la mort de la famille de Batman, parce que ça.
Oui, mais il y a personne qui meurt pour le moment.
C'est censé affaiblir Batman par rapport à la vision qu'a le Joker de Batman. Le Joker est amoureux de Batman. Il le dit même dans, je crois.
Attention, tu me disais de pas spoiler.
Non,
là,
mais il le dit dans Catwoman du mois dernier. Il lui. Il y a
mais
quatre,
en plus,
il y a,
ça a été dit par Snyder un million de fois dans voilà, 10 millions d'interviews différentes.
Il est jaloux qu'il ait toute cette famille autour de lui, et donc en fait, cet arc, ça va être pour pouvoir semer le doute entre les Robin et Batman, pouvoir les tuer et les. Et que Batman soit à nouveau son petit jouet à lui tout seul. Et
donc, le Joker est une belle-mère, en fait. Voilà. Enfin, une belle-mère au sens, pas au sens parent de ta femme ou parent de ton mari, mais la deuxième femme de ton père, quoi. C'est-à-dire qu'il va évincer la famille pour avoir son nouveau mari à lui tout seul.
C'est ça, donc je trouve qu'il y a quand même un fond intéressant qui n'a pas été spécialement utilisé.
Ah, si, ça a déjà été utilisé pas mal de fois, l'amour du Joker, d'histoire. Hein.
Je veux dire, c'est le contre-pied de...
Puis la direction que ça prend, là, sans la révéler, ça fait très Batman Rip aussi. J'ai l'impression qu'il nous fait aussi son Morrison Snyder là-dessus.
Oui, sauf que Morrison, lui, réussissait beaucoup mieux. Donc,
je suis pas forcément d'accord.
Oui, mais on connaît vos sentiments, mais voilà, ça a déjà été fait.
C'était différent, c'était une approche différente, disons. La situation reste à peu près la même, mais c'était une approche différente.
Ouais. Et puis au début, c'était ambitieux.
Snyder
au fur et à mesure, ça s'est filoché.
Snyder est aussi très respectueux de ce qu'a fait Morrison avant, donc c'est pas faux qu'il y ait des relents de Rip, puisque il y a beaucoup de choses qui se sont passées.
Parlons un petit peu du backup, hein, quand même, écrit par Scott Snyder, accompagné de James Tynion IV et dessiné par Jock. Beaucoup plus intéressant que celui du mois dernier.
Super.
Avec le qui pose, j'ai l'impression, plus le troisième arc de Snyder avec le prochain Villa. Ouais. Voilà. Ça sert surtout à ça.
Ouais, puis je pense qu'il expose aussi un petit peu cette situation sur laquelle on reste en cliffhanger. Ouais. Il nous explique un petit peu plus le pourquoi de ce cliffhanger.
Ouais.
Dans plus, hein.
C'est pas vraiment un cliffhanger.
Ce qui m'a fait marrer, c'est ces gardes qui portent un cheval. Voilà. Sans révéler ce qui se passe.
On voit pas trop quel est l'intérêt, mais c'est drôle.
Non. Et c'était juste pour le fun.
C'est la folie du Joker, quoi, comme d'habitude.
Enfin, bon, ouais. Moi, je suis pas fan des backups en général, depuis le début de cet event, les backups en général m'ennuient un peu, quoi.
Ça va, moi j'aime bien, j'ai bien aimé celui-là.
Bah, vos notes, alors du coup, on va essayer d'avancer un petit peu parce qu'on est en train de prendre du retard là. Bon, pour moi, c'est un check-it celui-ci. Il est sympathique, mais il reste quand même un petit peu longué, donc check-it.
Un bail pour moi.
Ouais, un petit check-it.
Idem, check it. Alors que la série Batman, jusque-là, même si j'avais des reproches, c'était quand même un bail avant. Là, c'est vraiment. Ça va nulle part pour moi.
Mais justement, on va rester avec toi, Sam, qui va nous parler du Batman et Robin 15 qui rentre dans le crossover Death of the Family.
Oui, malheureusement, ce qui fait que c'est pas très bon. Donc, écrit par Peter J. Tomasi et dessiné par Patrick Gleason. Donc en fait c'est Robin qui après la confrontation qu'on a justement dans le Batman 15, donc en fait c'est la suite directe, décide d'aller rechercher Alfred et évidemment tombe sur le Joker. Et là commence une espèce de discussion qui n'a quasiment pas de fin entre Robin et le Joker qui dure, ça dure 10 pages mais j'ai l'impression que j'en lisais 100. C'est c'est chiant mais comme c'est pas permis.
J'ai eu la même impression.
Graphiquement, c'est superbe, notamment l'interprétation du Joker par Gleason, qui joue avec le masque de peau du Joker, il le tourne dans tous les sens, c'est dégueulasse.
Ah ouais. Voilà. Et puis, si vous aimez pas les insectes, hein, c'est pas fait pour vous. Hein,
voilà. Mais sinon, il y a rien. Il y a strictement rien.
Moi, j'ai trouvé ce numéro brillant. La confrontation entre Damian et le Joker, et j'ai trouvé ça passionnant parce qu'en plus, là, le Joker est face à un Robin qui est très différent des autres Robins. Un Robin qui, quand il lui dit « je vais te tuer », bah, il pourrait très bien le faire, si Damian. Et ça, le
mais
Joker,
justement, ça mène à rien, c'est ça le problème. Vachement... C'est ce que je me suis dit au début, et ça mène à rien.
Mais si, ça mène à quelque chose. Franchement, c'est bien vu. J'ai bien aimé tous les petits clins d'œil pour dire que voilà, ça, il reparle d'événements qui sont passés dans Batman Rip. Il reparle de Killing Joke.
J'ai particulièrement détesté la référence à Killing Joke.
Bah, moi, j'ai trouvé ça malin, et j'ai trouvé ça intéressant. Et ça relève vachement le niveau par rapport au numéro précédent qui était vraiment pas terrible par contre, celui avec la secte de cannibales.
Oui, qui mène à rien aussi. Il y avait la dernière page qui valait quelque chose.
Donc moi, franchement, ce numéro m'a beaucoup plu et c'est un bon gros bail pour moi.
Le numéro précédent ne faisait pas partie du crossover en revanche.
Si, au fait, il y avait une grosse référence à... au final.
C'était juste un prologue, il n'était pas vraiment rentré dans le crossover. Voilà.
Bon, ouais. En ce qui me concerne, c'est du check it moins, les limites du pass.
Ça sera
à voir uniquement pour les deux épisodes. Ouais,
mais Chucky. Benny, il aime pas. il aime pas Gleason.
Alors, donne ton avis un petit peu sur cet épisode.
Ouais, donc globalement, l'histoire comme Sam, je l'ai trouvée très longue, très chiante. Voilà, cette discussion était interminable pour arriver à une conclusion toute trouvée, je veux dire, limite évidente. Et puis, les dessins, moi je trouve que, c'est un escroc, quoi. C'est-à-dire que le mec fait essentiellement des bustes, des visages. Alors, oui, ils sont très bien faits, mais ensuite...
Tu l'as déjà répété 50 fois, ça.
Ensuite, voilà, graphiquement, c'est pas... C'est du vol. Bon, bref, donc pour moi, c'est un pass, cet épisode.
D'accord. Et donc pour toi, un bail King Adam.
Bah oui, c'était mon coup de cœur de la semaine.
Ok, on continue avec la sortie du Suicide Squad numéro 15. King
oui,
Adam.
Qui lui aussi est lié à Death of the Family. Donc Adam Glass au scénario et Fernando Danino au dessin. C'est la suite de la confrontation entre le Joker et Harley Quinn. C'est peut-être le numéro où le Joker en prend le plus plein la gueule.
Pour le moment.
Moi, j'ai trouvé ça très sympa, puisqu'on a une Harley qui a quand même beaucoup évolué par rapport au personnage qu'on savait être très amoureux du Joker, prêt à tout faire pour lui.
Il a un moteur combien de cubes ?
Oula. Non, mais disons que dans la série Suicide Squad, Harley a peut-être trouvé l'amour avec un autre personnage, donc le Joker est très très jaloux, et voilà. Donc c'est un petit peu la discussion entre les deux anciens amants, et il y a des petites révélations assez sympathiques à la fin, et pour les amateurs de Suicide Squad aussi, le retour d'un personnage qui avait disparu, donc franchement un bon titre tie-in à Death of the Family. Un bail.
Ok, on passe au Bad Girl numéro 15, Benny. Benny qui est parti, donc.
Ah merde, excuse-moi, oui, bah oui. J'avais oublié, j'ai en coupant le micro. Comme
c'est
d'habitude.
Pas grave.
Bon, donc Bad Girl, par Gail Simon et Ardian Sayaf, si je dis pas de bêtises, mais en même temps j'ai un gros doute. Et non, c'est Daniel Semper, voilà.
Semper Fi, comme disent les Américains, puisqu'on prononce Fi aux États-Unis. Hein. Oui, les Américains sont trop cons pour parler latin, donc ils disent Semper Fi. C'est un truc qui m'a toujours fait marrer, ça.
Ah, ouais.
C'est okay. L'anecdote qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave.
Tout à fait.
Voilà, donc c'est la deuxième partie de cet arc qui s'intègre à Death of the Family. Encore une fois, le dernier épisode était vraiment bon, et là c'est long. Franchement, le Joker, on en a marre.
Pour continuer dans la vanne, plus c'est long, plus c'est bon. C'était bon, ouais. C'est long, voilà.
Mais pas là.
Voilà.
Je suis désolé, excusez-moi, je suis...
Et Gail Simon retombe vraiment dans le glauque, le trash à outrance...
Ah bah heureusement qu'elle s'est fait virer celle-là, hein.
Ah non, j'allais le dire.
Non mais franchement, je comprends pas. Pourquoi ça doit être si trash, si gore? Elle doit écouter du métal, cette jeune femme.
Voilà, c'est enfin, comme voilà. Ça qu'il faut faire.
C'est comme
non
ça
parce que
lire,
là franchement c'est du Slipknot et du Cradle et tout ce que tu veux réunis dans la Bat Family et c'est bizarre. Donc voilà, bon bah non, juste un
tour
un
pass. De lire en plus, tiens.
Non, pour moi c'est un pass clairement. L'ex numéro était génial, mais alors celui-là non.
L'ex numéro.
Enfin, le précédent numéro.
Ok. Nouvelle formule, pourquoi pas. On passe au Green Lantern Corps numéro 15, qui fait partie du crossover Rise of the Third Army. Encore une fois, la notion de crossover est somme toute très relative.
Oui.
Parce que
disons qu'il continue à suivre un certain personnage qui en a pris plein la gueule dans l'épisode précédent.
On a deux trois pages qui s'intéressent au crossover, le reste, voilà. Donc c'est
scénarisé. Je me demande si l'intrigue avec John Stewart n'est pas liée justement au crossover.
Peut-être. Scénarisé par Peter Tomasi, comme d'habitude, avec des dessins de Fernando Passarin, ancré par Scott Hanna. Donc, la révélation du mois dernier, c'était que Guy Gardner était déchu de son anneau, et donc il est retourné sur Terre, il était retéléporté sur Terre par les gardiens, et il va devoir essayer de continuer à faire le justicier, mais sans anneau. Ce qui va l'amener à des choses, peut-être, qui vont lui poser des gros, gros, gros problèmes. Mm-hmm. Et puis, il va en même temps essayer de voir si sa famille n'est pas en danger suite à sa sa perte d'anneau. Bah, l'épisode en lui-même est bien. Enfin, c'est un bon
la
épisode,
partie.
Super intéressant, des bonnes relations familiales pour Guy, on s'attache vraiment au personnage. Le problème, c'est que c'est censé être un crossover, encore une fois.
Ouais.
Donc, en termes d'histoire, l'épisode est très bon, c'est un gros bail. En termes de crossover, c'est un gros... Enfin, je vais pas dire que c'est un gros pass, on va dire que c'est un check-it moins, parce que on voit que d'autres membres du corps commencent à se rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas bien, mais bon,
bah,
c'est pas
justement,
assez,
oui. Oui, il y a certains membres du corps justement qui découvrent la conspiration des gardiens et qui se fait avoir. On ne révélera pas qui, mais c'est un membre extrêmement important du corps. Donc, effectivement, le crossover passe au second rang, mais je pense que c'est à cause de ce qui est arrivé à Guy dans le précédent épisode, sur lequel en fait Tomasi pouvait difficilement passer dessus.
Oui, enfin, il pouvait faire un épisode plus centré sur le crossover et nous faire celui sur Guy après, ou même carrément après l'histoire du crossover.
Ouais, mais je crois qu'on justement lui aurait reproché d'avoir laissé Guy de côté après l'avoir, l'avoir déchu de son rang. Bah, c'était
après
un peu
tout,
difficile.
Il aurait pu prendre, l'équivalent de, je sais pas combien de temps il se passe entre deux numéros dans l'univers d'essai, mais il aurait peut-être pu prendre 2-3 jours pour le temps de prendre la nouvelle sur lui, quoi. Bon, ça reste sympa. Le problème, c'est qu'on va continuer sur l'histoire de Guy et on va pas avancer sur le crossover. Ça, c'est encore le problème. Donc, bon épisode, mais merde, quoi. Pourquoi faire un crossover? Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Et je suis vraiment déçu. Et Geoff Johns me déçoit, puisque c'est lui qui impulse.
Qui devrait impulser, qu'il le fait pas.
Bah, de toute façon, en tout cas, c'est sûrement son idée à lui. Hein. C'est lui qui a amené tout ça, comme d'habitude. Et le problème, c'est que derrière, ça suit pas, quoi.
Ouais, mais
et personne ne suit.
Juste une question, parce que je l'ai pas lu encore. Mais est-ce que si on t'avait enlevé la notion de crossover sur la couverture, est-ce que t'aurais apprécié plus l'histoire?
Oui, mais comme je l'ai dit, l'histoire en elle-même est très bonne, mais ce n'est pas un crossover. Le problème, c'est que c'est vendu comme un crossover. Et c'est ça qui est très gênant.
Alors, en ce qui me concerne, j'ai aussi trouvé la globalité de l'épisode assez bon. Je dirais les trois quarts. Les trois quarts, c'est très bon. Et je trouve que la fin, ça s'éternise beaucoup. C'est-à-dire les dernières pages, ça prend trop de temps.
Mais bon, c'est pour montrer le côté héroïque, même sans anneau. Bon.
Ouais, l'héroïque crétin, là, quand même. Hein.
Oui, mais bon, en même temps, c'est Guy Gardner. Hein.
Voilà, oui.
Faut pas trop chercher.
Non, mais
à
sinon, épisode sympa, mais pour moi, ça sera qu'un check-in.
Ouais, moi, j'ai envie de dire un bail parce que l'épisode est bon, mais pas en termes de cross, quoi. Donc, voilà. On passe au dernier décès de cette semaine. Je sais pas ce qui t'a pris, Kinghead. Tu as lu Deathstroke.
Si, Deathstroke avec Justin Jordan au scénario et Edgar Salazar au dessin. On oublie un petit peu tout ce qu'avait fait Rob Liefeld. On retrouve le Deathstroke des 7 premiers numéros de la série, à savoir un tueur qui est engagé pour aller assassiner des super-héros un petit peu partout dans le monde. C'est le début d'une histoire où en fait justement Deathstroke doit tuer quelqu'un qui ne peut pas être tué puisqu'il a l'air d'être complètement invincible. Un gars qui sévit dans un pays de l'Est où en fait il est devenu dictateur grâce à ses pouvoirs.
C'est Docteur Doom.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Ça pourrait être Docteur Doom, sauf qu'il a pas du tout le charisme de Docteur Doom. C'est plus un peu la grosse brutasse. Mais c'est. Moi, j'ai trouvé franchement le numéro plutôt agréable à lire, puisqu'on y retrouve un Deathstroke assez sympa, vraiment badass. Voilà, le retour du vrai Deathstroke. C'est sympa. C'est pas l'histoire de l'année. Ça se laisse lire. Je pense que ce sera en deux parties. Pour moi, c'est un petit check-it, et si vous aviez bien aimé l'esprit des premiers numéros de Deathstroke New 52, revenez maintenant, c'est pas mal. Voilà.
Oui, voilà, j'étais parti me chercher un café. T'as fini plus vite que je le croyais. On verra dans combien de temps cette série est annulée aussi. Parce que je pense pas. Non, mais je veux pas être médisant. Je ne nie pas la qualité des histoires quand elles ne sont pas écrites par Rob Liefeld. Mais le problème, c'est que le personnage est pas forcément super charismatique.
Je suis désolé, Deathstroke, c'est un super perso. Hein.
Je pense.
C'est sûr que quand on voit ce qu'ils ont fait dans Arrow avec le perso, ouais, d'accord. Hein.
Je pense qu'il y a matière, il y a largement matière avec Deathstroke. Le problème, c'est effectivement, il donne pas vraiment sa chance au titre.
La série avait marché un peu dans les années 90. Elle avait été jusqu'au numéro 60, si ma mémoire est bonne. Mais on n'est plus dans les années 90.
Il paraîtrait qu'il va se recoltiner les Teen Titans bientôt, donc peut-être qu'on retournera un peu à la base.
Ouais.
Ça pourrait être intéressant.
Ouais. Ok, on va maintenant passer à la partie indé pour terminer l'émission avec la sortie de Clone numéro 2, scénarisé toujours par David Schulner avec Juan Roserip au dessin. J'avais beaucoup aimé le premier, même s'il y avait un petit manque d'originalité, une histoire de clone de toute façon, on a l'impression que tout a été fait. Et bien là, on va pas mal avancer sur l'histoire. On se rend compte que derrière cette histoire de clone, il y a aussi toute une histoire d'embryons, enfin de modifications sur les embryons. Ça, on le savait déjà, que les travaux se faisaient pour essayer aussi de sauver les gens des maladies, des recherches sur les cellules souches. Et on se retrouve au beau milieu d'une intrigue politique, puisque le vice-président, qui est peut-être le futur président, doit s'opposer au projet. Mais s'il le fait publiquement, il a sa fille déjà qui est malade de Parkinson, et ses recherches sur les cellules souches peuvent la sauver. Cependant, s'il s'oppose au projet publiquement, il va gagner tous les votes conservateurs et devenir le prochain président. Mais s'opposer publiquement, c'est aussi empêcher la survie de sa fille. Donc il y a toute cette intrigue politique, et on se rend compte que ça a des liens avec cette histoire de clone, que depuis 30 ans, il y a des manipulations qui sont faites dans des labos, et donc on apprend un peu plus l'histoire qu'il y a derrière tout ça. C'est franchement pas mal, le plot avance bien, et on avance vers une... peut-être pas la résolution, mais en tout cas une bonne avancée pour l'histoire. Moi, j'aime beaucoup cette série. Juan Roserip nous sert des dessins qui sont super bons. Bon, peut-être l'avantage aussi de faire des clones, c'est qu'on fait toujours le même visage, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment très sympa. Pour moi, c'est un bail, cette série. J'aime beaucoup. On passe à la suite avec le Walking Dead 105, Benny.
Ouais, donc, comme d'hab, hein, Charlie Adlard au dessin et puis Robert Kirkman au scénario. Alors, petite déception pour moi que cet épisode, puisque ça se confirme, enfin ce que je pensais se confirme, c'est-à-dire que la série devient de plus en plus graphique et de plus en plus gore, sans que ce soit vraiment justifié au fait,
je trouve.
Mais quelle
petite nature, ce Benny.
Non, mais quand vous lirez ces épisodes, alors franchement, à mon avis, vous serez du même avis que moi. Parce que voilà, c'est y a une scène de torture, on a l'impression que la série depuis quelque temps est écrite par Garth Ennis. Bon, peut-être que c'est le cas, hein, peut-être qu'au fait Kirkman le paye.
Ça peut aussi être un compliment. Hein,
Au fait non, parce que Garth Ennis, par exemple Preacher, c'était totalement délirant, donc c'était gore certes, mais c'était vraiment dans le délire. Là,
le premier Crust, c'était lui, hein.
Ouais, mais là c'est vraiment. Je sais pas, c'est pas vraiment utile, ça fait pas vraiment avancer l'histoire, on a l'impression qu'on fait du choquant pour vendre des numéros plutôt que de faire des bonnes histoires. Et
Je veux pas forcément dire du mal de Kirkman parce qu'il a beaucoup apporté, mais ça ne m'étonnerait pas du monsieur quand même.
Là par exemple, pour te dire, par exemple, il y a un personnage qui se moque de la blessure de Carl, donc qui l'oblige à enlever son bandage, on voit son hein, vous vous souvenez qu'il a reçu
son
quand même
trou.
Oui, voilà, on voit son trou.
pas plus.
Et il dit que c'est vraiment dégueulasse. Voilà,
oui,
c'est...
ça veut dire que même dans un monde post-apocalyptique, il y a encore des bullies.
Ouais, il y a des connards, quoi.
Ouais, non, mais là, depuis quelques épisodes, il y a le roi des connards. Mais alors, vraiment, le roi des connards, à côté, le gouverneur, t'as envie de partir en week-end avec lui.
C'est super connard, c'est ça?
C'est super connard.
Ouais. Super connard.
Désolé.
J'imagine bien avec une voix comme ça aussi. Même s'il a pas trop le physique, mais bon, c'est pas grave. Ça commence à me lasser au fait, ce côté démesurément trash. C'est con parce qu'il y avait un bon retournement de situation dans le dernier épisode, et là on repart sur du trash à outrance. Bon, pour moi, ce sera juste un check-it cet épisode, alors que d'habitude, c'est quand même généralement mon pic de la semaine. Donc, mon pic de la semaine, mon coup de cœur.
C'est ton érection de la semaine, on peut le dire, hein, tu as des problèmes d'érection.
Ouais. Oui, surtout sur les zombies et tout, j'adore, c'est ma cam.
Donc là, c'est un banc de mou, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est un bandelage même, ils en auront besoin.
Oh, ça enchaîne la vanne ce soir, c'est ouf. Je crois qu'on se prépare pour demain et le live, on met les meilleurs. On met toutes les plus mauvaises vannes maintenant, comme ça on garde les meilleures pour demain.
Le dernier live d'ailleurs avant la fin du monde, rappelons-le.
Ouais, peut-être.
Ah bah de toute façon, c'est avant la fin du monde, c'est sûr, mais maintenant, est-ce qu'elle aura lieu?
Ça dépend. Attends, tu sais, dans la société où on est, beaucoup de gens ont de retard, peut-être que la fin du monde aura du retard. C'est possible. C'est trompé de jour.
La supposée fin du monde.
On termine avec une dernière review, puisque c'est Kinga qui va nous en parler, puisque Sam a fait sa feignasse, il a décidé de ne pas lire d'Indé cette semaine.
Ouais. Oui.
Oui, c'est pas. T'as bien raison, repose-toi.
Et je vais vous parler d'un numéro 1 chez Dark Horse qui s'appelle
To Hell You Ride.
To Hell You Ride, voilà. On en avait parlé, je crois, dans un Weekly News, puisqu'on avait parlé de Lance Erickson, l'acteur qu'on avait vu dans Millennium et compagnie, qui allait travailler.
Et dans Alien.
Et dans Alien, entre autres, voilà.
Ouais.
Qui allait participer au scénario d'un comics. Et donc, c'est ce comics, puisque, donc, à l'histoire, on a Lance Erickson et Joseph Madre. Et au dessin, on a Tom Mandrake. Donc avec de
Tom
très beaux
Mandrake.
Dessins,
ouais, Tom
très beaux
quand
dessins.
Même, quoi.
C'est un petit peu old school, ça fait très années 80, mais c'est vraiment très beau.
Justement, moi j'avais prévu de le lire, j'ai juste manqué de temps. J'espère que enfin au pire j'aurais gagné du temps, mais vends-le-moi, vends-le Breaking Head.
Bon, je vais te raconter un petit peu le pitch. Au début, ça commence
4 euros, donc
dans
voilà.
Les années dans les années 80, en fait, on est dans une terre aux États-Unis où en fait les des mineurs en fait trouvent de l'or, hein, et donc c'était une zone où en fait les Indiens avaient déposé des cadavres et tout. C'était une zone sacrée. Et donc là, les Américains arrivent et ils foutent le bordel pour pouvoir récupérer de l'or dans cette zone-là. Donc bien sûr, les Indiens sont pas très contents et donc ils décident de faire appel aux esprits. Et pour ça, en fait, ils font tout un processus un peu chamanique où en fait ils ont quatre personnes qui vont prendre un arc et lancer des flèches. Chaque flèche représente un esprit. Et en fait, ils vont lancer la flèche et puis ils vont courir et puis ils vont se prendre la flèche eux-mêmes qu'ils ont lancée. Et ça les transforme en sorte d'esprit. Donc il y a deux flèches comme ça où deux Indiens se font transpercer. Et les deux autres flèches, en fait, les Américains qui voient les Indiens courir vers eux, bah, ils les tuent. Et donc du coup, ces deux flèches n'atterrissent pas. Et en fait, elles se retrouvent à tourner autour de la Terre. Voilà, on sait pas trop ce qu'elles deviennent. Et donc après,
ils ont pris de la drogue quand même. Ah, ces messieurs.
J'ai pas tout compris. Ouais.
Non mais tu verras en lisant le comics. Et donc en fait, quand ils sont touchés par ces flèches, en fait, ils se transforment en Watchers. Et c'est des sortes d'esprits un peu qui vont pouvoir semer.
Ils mesurent 4 mètres et ils deviennent chauves.
Non, pas vraiment. Ils sont un peu type fantomatique. Mais par contre, quand ils traversent quelqu'un, en fait, ça fait disparaître leur peau et tout, et ils crèvent comme de la merde. Donc ils sont quand même assez forts. Donc après
Putain,
l'histoire,
c'est space, hein, quand même.
Après l'histoire, ça se passe à notre époque où en fait on est dans une réserve indienne où justement on voit un personnage qui est d'origine indienne, un petit peu un loser qui s'occupe d'une scierie. Et en fait, il se retrouve un soir alors qu'il était en train de boire, il était tout bourré. Il y a la fameuse flèche en question qui tombe et qui atterrit à côté de lui. Et il a l'impression de sentir une présence autour de lui. Et ils se disent, ça me rappelle quelque chose, c'est peut-être mes ancêtres m'en ont parlé, et est-ce que je vais pouvoir utiliser ce pouvoir pour peut-être faire passer un message dans ma région.
Entre deux verres,
voilà. Mais non, mais ça c'est que dans les deux premières pages et tout. Et donc, voilà.
Entre deux verres, ses ancêtres lui ont parlé, bien sûr, puisque exact. Tout le monde sait que nos ancêtres nous parlent souvent.
Mais tout le monde sait que les Indiens sont alcooliques.
Non, mais c'est ça qui voulait dire. Ça, par contre, ouais, c'est dans le comics, ils sont un peu alcooliques. Mais franchement,
c'est Jason Aaron qui l'a dit.
C'est une histoire en 5 parties, et ça m'a bien accroché. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les dessins, et j'ai vraiment envie de voir la suite. Je sais pas trop où ça va aller avec cette histoire d'esprit.
Eh ben, en enfer.
Mais c'est pas mal. Bah oui, si on
va en enfer. Donc tous en selle.
Et il y a quand même une magnifique scène d'explosion de poule. Donc voilà.
Ah bah alors là, franchement,
avec ça on ira voir.
S'il y a une scène d'explosion.
Ah bah là tu me l'as bien vendu, hein, le truc.
Je sais pas si j'ai envie de le lire maintenant.
Il y a donc Deadpool même dans ce truc là.
Oh la vache. Oh putain. Waouh, bravo.
Je sais pas si je vais en enfer pour cette vanne, mais
je t'offre le paradis avec celle-ci. <quoi. En tout> cas...
oh, je viens de comprendre, merde.
10 minutes plus tard.
Ouais, mais je viens de comprendre. Mais elle était plutôt fine par rapport à d'habitude.
Ah, mais oui,
quoi.
Mais elle est très bien. Très bien.
Elle était vraiment bonne.
J'irai au cirque peut-être avec ça.
Peut-être.
En tout cas,
pour moi, c'est un bail et c'est 5 numéros, cette mini-série, et je pense que je vais voir au moins le deuxième.
Ok, bon bah très bien. Eh bien, on va finir avec un petit mail que nous a envoyé Cerveau avec 3 O. Son sujet, c'est les gaufres, non je déconne, les comics bien sûr. Ayant découvert le plaisir de lecture avec les X-Men, Saga et Spécial Strange de mon enfance, je profite de la fin de mon adolescence pour chercher un podcast sur le domaine, découvrant vos collègues concurrents bien avant Comic City. Et bien mal m'en a pris. Jugement de comics parfois uniquement sur la couverture ou la typographie du titre, bâchage systématique, voire compulsif de Morrison, dès qu'il ose pousser nos neurones à réfléchir un peu plus que la moyenne,
énergie,
Énergie et ton de voix des chroniqueurs proches d'un doc gynéco à l'agonie par asphyxie, connaissance approximative des continuités à la limite de l'humour absurde involontaire et opinion quasi unique, le comble pour un podcast. Bref, je pensais vraiment que je ne trouverais rien d'intéressant. Puis, sans réel espoir, je vous ai essayé et j'ai bien fait. Ambiance sympa et marrante, diversité d'opinions, on s'habitue à l'humour de Benny jusqu'à y prendre goût, on apprécie le côté candide de Kinghead, et Sam tient parfaitement le rôle du grognon à l'esprit critique surdéveloppé, mais ça sert à tout groupe qui se respecte.
Je ne vois pas de quoi vous parlez.
Bravo donc pour votre travail, la pluralité des goûts que vous représentez et la convivialité agréable de votre podcast.
Bon, on s'aime
pour...
pas. Hein.
Ouais. Non mais je comprends. Il a dû se gourer en fait. Il fait ses compliments à l'autre podcast qu'il a écouté avant et puis nous, on est les premiers qu'il a écouté quoi. Il s'est trompé à mon avis.
Pour finir, une petite pointe d'opinion personnelle. Grant Morrison, Rox, je l'affirme clairement. Si vous n'êtes pas du même avis, prenez le temps de relire en vous concentrant, en concentrant vos neurones ou simplement en vous droguant. C'est une plaisanterie bien sûr. La drogue c'est mal. Bouh. C'est lui qui le dit. Hein, c'est pas moi qui rajoute. Et vous réaliserez l'étendue de son imagination rafraîchissante. Au plaisir de vous entendre encore très longtemps.
Oui, mais je suis converti à Grant Morrison moi aussi. Donc.
C'est bien, ça fait déjà, un plus.
Merci pour ton mail, cerveau.
Merci.
En ce qui concerne le bâchage des concurrents, je vais pas prendre position. C'est pas de la couardise ou quoi que ce soit. C'est juste que chacun a un travail. C'est vrai qu'on a tous des cibles un petit peu différentes. On s'adresse pas forcément au même public, même si on s'adresse tous à des lecteurs de comics. On s'adresse pas forcément au même type de public en termes de cible d'âge. C'est bien. Enfin, moi, je trouve qu'il en faut pour tous les goûts. Et je loin de moi le fait de prendre parti d'un
nous,
côté
c'est
ou
plutôt,
de l'autre.
On s'adresse plutôt aux sumo et aux charpentiers népalais.
Oui, voilà.
C'est que notre cible, je pense qu'on peut le dire.
Mais après voilà, je comprends tout à fait ton avis, je le respecte parfaitement. Maintenant, je ne peux pas me permettre de dire que tel podcast ou tel podcast est meilleur que l'autre, parce que voilà, c'est pas mon rôle quoi.
Non, mais moi je peux me pas le permettre. Donc l'autre podcast, il est meilleur que l'autre, hein, déjà. Voilà.
Moi, je suis pas spécialement candide.
Non mais par contre
si tu aimes tout.
Par mais contre, non, j'aime pas tout. Je vous verrai d'ailleurs dans le live de demain que j'ai dans les catégories des mauvais trucs, j'ai des trucs.
Étant donné que le podcast sort samedi, ce sera le live d'hier en
fait. Ah merde, oui, donc dans le live d'hier.
Et oui, c'est vrai qu'il y a aussi le live que l'on prépare demain, d'où peut-être le fait qu'on soit un peu claqué ce soir quand même, bordel de merde.
Ouais.
Enfin, non, mais c'est surtout que les comics cette semaine étaient à chier, donc
mais non,
ça pas.
C'était pas mal.
C'était une semaine moyenne.
Tout n'était pas bon.
C'était une mauvaise semaine, je trouve.
Il y avait des petites choses sympas.
Semaine de check-it pour moi uniquement, je pense. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est marrant parce que c'est pas le premier récemment à nous parler justement des amis, bien sûr, nos amis concurrents. Et donc
oui,
bon,
parce
bah,
qu'en plus
voilà,
on les connaît tous ou presque, et c'est vrai que bon. Voilà, on est aussi potes en dehors et
moi perso, j'écoute un peu tous les podcasts et on en trouve un peu pour tous les goûts quoi. Donc
c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes cibles, voilà. C'est vrai que s'il y a quelque chose qui vous plaît pas chez nous, vous le trouverez peut-être ailleurs, et inversement, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ailleurs, vous le trouverez peut-être chez nous. Mais justement, c'est bien, ça offre de la diversité et puis chacun a sa cible.
Par contre,
se marche pas dessus, c'est pas une mauvaise idée.
Je sais qu'on est peut-être pas le meilleur podcast, mais on a les meilleurs auditeurs.
Ça c'est clair.
Oh,
ça c'est. tu m'as.
Ah, c'est beau.
Comment rebondir après ça?
Ah là là. Bah, on va conclure peut-être alors.
Mais non, on va conclure, mais avant de conclure, on va aussi faire un gros big up à Gekono.
Eh oui,
oh
là là.
Bah,
alors voilà, ouais,
un énorme
ça
dessin adorable.
Oh là, Gekono, quel.
Bah, plus
quel talent.
Plus qu'adorable, un énorme dessin tout court, quoi. Il faut absolument
quel
le voir.
Vous pouvez
quel
le voir sur la page de Comic City, sur la page Facebook, bien sûr.
Il vous a super bien réussi.
Ouais, on la mettra
avec
le podcast aussi.
Enfin, merci à lui, vraiment.
Ouais, merci beaucoup, Gekono.
Oui, merci.
Sincèrement, vraiment fait plaisir. Et on a reçu aussi un mail de Marty qu'on ne va pas lire là maintenant parce qu'on a plus le temps. Un mail écrit à la main.
Marty qui a, je sais pas, il a peut-être raté une vocation de docteur.
C'est promis, on le lira dans une prochaine émission. Marty, on lira ton mail.
J'espère fait. Qu'on a les meilleurs auditeurs, la Kinghead.
Marty
D'ailleurs, à ce sujet, puisque tu parles de Marty, on avait une très jolie couverture de Fanboy versus Zombie 9 qui nous singeait complètement Back to the Future. C'était très drôle. Voilà. Je sais pas si vous avez vu cette couverture.
Non, j'ai pas vu.
Non.
C'est énorme. Bref, on se retrouve donc la semaine prochaine pour les sorties de la semaine prochaine, bien sûr.
Du Marvel Now.
T'es sûr ? C'est pas celle du mois dernier et du mois prochain ?
Ah, on pourrait, hein, ça serait peut-être un peu moins de travail. bien sûr, vous nous retrouvez aussi mardi pour le Weekly News. Et puis, bah, vous nous retrouvez hier pour le live, hein, puisqu'au moment où vous l'écouterez, c'était hier. Et oui.
Et d'ailleurs,
au futur antérieur.
Oh là là,
d'ailleurs, ce sera la semaine prochaine le dernier avant la fin du monde, donc peut-être que vous ne l'entendrez jamais.
Alors,
sortira
rassurez-vous,
le samedi.
Si vous n'avez pas pu écouter le live jeudi ici, je le redirai pendant le live et puis bon, ça sera marqué sur le site. Nous allons quand même l'enregistrer et nous ferons comme la dernière fois, c'est-à-dire que nous posterons. Bien sûr, ce sera en différé. Vous ne pourrez pas réinteragir avec nous puisque ce sera de l'enregistrement, hein, ce sera terminé. Mais en tout cas, vous pourrez écouter quand même le live et puis voir les choses qui se seront passées. À mon avis, ça va être complètement taré. Je ne sais pas comment maintenir la soirée, mais bon.
Puis je vais offrir des comics, mais bon, c'est trop tard maintenant. J'aurais dû le dire avant.
Oui, fallait en parler lundi. Mais tu n'étais pas là.
C'est pas grave.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine. On vous dit merci beaucoup. À très bientôt. Et comme d'habitude, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter et retrouvez tous les anciens épisodes sur iTunes. Bye bye.
Bye bye.
À bientôt.
Au revoir. Ciao.